le blog de Christian Julia. Article lu par l'auteur. Conscience, où te caches-tu ?
La scène se déroule de nos jours à l'intérieur d'une voiture. Le conducteur est très attentif à sa route. Tous ses sens sont en éveil. Il est prêt à réagir au moindre événement inattendu. Et voilà que son téléphone sonne. D'habitude, il ne répond pas car il est conscient qu'il est très dangereux de téléphoner en conduisant. Mais là, il voit que c'est sa femme qui l'appelle. Et ce n'est pas son habitude d'appeler son mari quand elle le sait en voiture. Il se dit alors que cela pourrait être important et, avec mauvaise conscience, il décroche. S'ensuit une longue conversation, effectivement importante. On vient de faire à la jeune femme une proposition professionnelle très intéressante et elle doit répondre rapidement. Elle aimerait savoir ce que son mari en pense. Les points positifs et négatifs sont passés en revue et cela dure bien une dizaine de minutes et la conversation se conclut par le « je vais y réfléchir » de la jeune femme qui est ravie d'avoir eu l'avis de son mari. Le conducteur songe encore quelques secondes à sa conversation avec sa femme. Il repense à des arguments qu'il aurait pu avancer, puis il reprend le contrôle de sa conduite. Il se rend compte alors qu'il ne garde aucun souvenir de son trajet pendant les 10 minutes qu'il a passées au téléphone. Pourtant, il ne s'est pas trompé de route. Il a bien pris la sortie de l'autoroute qu'il devait emprunter. Il a alors un étrange sentiment. Il ne se souvient absolument pas de sa conduite, mais en fait, quelque chose est resté conscient et l'a guidé sur la bonne voie. D'ailleurs, tout en téléphonant, il avait bien conscience de regarder la route, de regarder les panneaux, de surveiller les autres véhicules. Il était conscient des deux phénomènes, la conduite et la conversation au téléphone. Cette dernière semblait accaparer son attention, toute son attention, mais en fait non, une autre conscience s'occupait de sa conduite, ce qu'il avait coutume d'appeler son pilote automatique. Mais après avoir raccroché, la surveillance de la conduite est passée de cette conscience secondaire à la conscience principale, et tous les souvenirs des événements de la route se sont évaporés, alors que la conversation avec sa femme, elle, a bien été stockée dans sa mémoire. Cette scène anodine que beaucoup ont vécue nous conduit à nous interroger sur l'un des phénomènes les plus mystérieux de la nature, la conscience. Il n'y a pourtant rien de plus banal que la conscience. On peut douter de tout, mais pas qu'on fait à chaque instant l'expérience de quelque chose. Une pensée, une odeur, une image, un souvenir, une douleur, une sensation. Au point que cette expérience nous donne le sentiment d'exister en tant qu'individu, sans aucun doute possible différent d'un autre individu, avec l'aptitude à interpréter toutes ces informations selon des filtres qui n'appartiennent qu'à nous. Notre conscience du monde étant aussi et avant tout une conscience de soi. Je pense, donc je suis. J'ai choisi cette anecdote au fond très anodine du conducteur qui téléphone en voiture, car elle met en lumière un phénomène qui laisse les scientifiques un peu perplexes. La conscience est vécue comme un goulot d'étranglement, un point de passage. On ne peut être conscient que d'une chose à la fois. Ceux qui croient qu'ils peuvent faire plusieurs choses en même temps se trompent et nous trompent. En fait, le cerveau passe d'une activité à l'autre très vite et nous avons l'impression de les mener en même temps. Mais en réalité, c'est une illusion. Cet enchaînement rapide de plusieurs activités finit d'ailleurs par épuiser le cerveau et il perd en efficacité. C'est pourquoi il est conseillé, pour améliorer ses performances, de ne faire qu'une chose à la fois, de se concentrer. Dans le cas de notre conducteur, le cerveau n'a pas pu gérer en même temps la conversation et la conduite de la voiture. Il a donc délégué celle-ci à une sorte de sous-conscience purement instinctive, presque réflexe, qui s'occupe aussi du volant, du changement de vitesse et des pédales. C'est la conscience du conducteur qui, elle, beaucoup plus évoluée, s'est occupée de la conversation avec sa femme. Mais naturellement, à la fin de l'échange, le souvenir de la conduite s'est totalement envolé. Le cerveau n'en a pas traité les différentes phases pour les mémoriser. De même qu'on ne se souvient pas, à la fin d'un trajet, des actions qu'on a menées pour conduire la voiture. Même si, selon un processus qui échappe encore aux scientifiques, notre cerveau capte et analyse en arrière-plan une multitude d'informations nous venant de l'extérieur ou de l'intérieur, nous ne sommes vraiment conscients que d'une chose à la fois. Notre conscience se présente comme le lieu où notre expérience de nous-mêmes et de notre environnement se vit. C'est là que convergent nos sensations, nos pensées, nos perceptions, intérieures ou extérieures, là que nous les analysons et que nous en tirons des conséquences, une nouvelle pensée, une action, une réaction, etc. Sensation, analyse. La conscience apparaît alors comme une sorte de poste de pilotage. Nous sommes assis au pupitre, nous avons à notre disposition une batterie de boutons pour lancer des actions. Devant nous, nous avons des quantités d'écrans qui nous diffusent des images de l'extérieur avec les sons, de l'intérieur, du passé, du présent et même des simulations de l'avenir. Nous sommes bien calés dans notre grand fauteuil de maître des opérations et nous contrôlons tout ce qui arrive dans la salle des commandes et nous envoyons les ordres pour lancer les actions que nous jugeons opportunes. Il y a bien un pilote dans l'avion et c'est nous. Mais cette vision de la conscience est en fait très moderne. Aujourd'hui, sans doute, on peut se considérer comme le pilote dans l'avion, ou le capitaine du navire, ou le contrôleur du réseau ferré. Mais il n'est pas dit que nous avons toujours eu cette conscience.